VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. En Éthiopie, le président américain Barack Obama commence sous peu son discours très attendu au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Quel sera son message aux Africains? Au micro d'Idrissa Sedoudia, un début de réponse avec le journaliste et analyste politique africain Dam Babou, directeur d'une station de radio basée à New York.
Je pense que le président Obama va rester conséquent, très cohérent. Depuis qu'il est sénateur, il s'est rendu au Kenya. Il avait dit que si l'Afrique ne règle pas les problèmes de la corruption, ce n'est pas la peine d'essayer de développer ce continent. Je pense que le président Obama est resté cohérent. Il l'a répété au Kenya. Et je pense aussi qu'il va dire exactement la même chose. Ça, c'est un des points. Il y a aussi le point du terrorisme qu'il va aborder, je crois.
Et il y a la situation humanitaire aussi dans le Soudan du Sud, l'un des derniers pays indépendants d'Afrique.
C'est sûr. C'est non seulement une question de principe pour lui, le président Obama va l'aborder, mais aussi sous l'angle du terrorisme. Aussi longtemps que nos États s'affrontent entre eux, ils resteront fragiles et ils resteront aussi le terreau du terrorisme et surtout de l'entraînement et de la formation des terroristes qui vont hanter le monde entier.
Le journaliste et analyste Dam Babou, basé à New York, a noté que le président Obama a eu un mini-sommet sur la guerre civile au Soudan du Sud hier soir à Addis Abeba. Y ont participé les leaders de l'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda. En Chine, les médias d'État dénigrent les voyages du président Obama en Afrique et soutiennent qu'ils sont motivés par l'influence croissante de Pékin sur le continent africain, dont les Chinois sont aujourd'hui les principaux partenaires commerciaux. Lionel Gaïma.
Le chroniqueur Lin Zun a écrit lundi dans Global Times que les États-Unis, je cite, « n'ont pas évidemment une politique constante envers l'Afrique et voient la Chine comme une rivale dans le domaine des opportunités économiques plutôt qu'une autre puissance constructive pour apporter le bien-être au continent ». De son côté, l'agence Chine Nouvelle a fustigé les ouvertures américaines tout en mettant en exergue le propre projet de la Chine. Elle a ajouté que malgré tout le bruit fait tout autour, les programmes d'aide des Américains en Afrique n'ont pas fait une grande différence. Xinhua réagissait ainsi au programme d'un milliard d'aides aux entrepreneurs internationaux en Afrique subsaharienne annoncé par le président Obama.
Offensive de l'armée tchadienne de la région du lac Tchad en réaction aux récentes attaques de la secte islamiste nigériane sur place. Il y a eu d'intenses combats hier soir, ont précisé des sources militaires jointes par l'AFP. Chérubin Dorsil.
Selon une source proche des autorités locales, une grande opération de ratissage est en cours dans les îles tchadiennes du lac Tchad. Les soldats tchadiens ont tué 6 combattants de Boko Haram et blessé 15 autres, indique une source sécuritaire qui a aussi fait état de mort dans l'armée tchadienne. N'Djamena a décidé de lancer cette offensive, à laquelle participent au moins 1 000 000 de soldats, suite à une série d'attaques meurtrières des insurgés islamistes nigérians. Ces derniers ont accru leurs activités dans les centaines d'îlots du lac Tchad, où, disent les autorités, nombreux d'entre eux ont cherché refuge après avoir subi des revers dans leur base au Nigeria. Boko Haram, rappelle l'AFP, est aussi pointé du doigt pour la mort de 7 personnes dans l'extrême nord du Cameroun durant les dernières 48 heures. Le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu ce mercredi au Cameroun après avoir visité le Tchad et le Niger. Ces 3 pays aident le Nigeria dans la lutte contre Boko Haram.
En Mauritanie, fin du sommet du projet de la muraille verte en Afrique lundi. Les participants ont réclamé entre autres la levée des sanctions commerciales imposées au Soudan, un pays membre du groupe qui se trouve sous embargo commercial américain depuis 1989. Rachid Bouda.
Cet appel a été lancé dans un élan de solidarité entre les pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. En plus du président Omar El-Béchir, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Tchad ont également pris part à la rencontre. Le déplacement du président soudanais s'est effectué sans inquiétude vu que le gouvernement de Nouakchott n'est pas signataire du traité de Rome ayant institué la CPI. Élaboré en 2005, le projet de Grande Muraille Verte vise à construire un espace vert long de 7000 km et de 15 km de large, allant de Dakar à Djibouti, pour surmonter le grand défi écologique auquel fait face le continent africain.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, incrédulité dans l'opposition face à la décision de l'opposant Agathon Rwasa d'entrer à l'Assemblée nationale nouvellement élue, alors que les résultats des législatives boycottés par l'opposition et la société civile ne sont pas jugés crédibles par la communauté internationale, entre autres. La réaction d'Athanase Karanyenga, un expert burundais en gouvernance politique, au micro d'Éric Manirakiza.
Il ne me semble pas qu'il y a beaucoup de cohérence entre son attitude avant les élections et actuellement. Je ne comprends pas non plus en quoi sa présence dans les institutions peut changer le sort de ces militants qui ont été persécutés depuis plusieurs années, qui sont tués, qui sont emprisonnés. J'ai peur de penser que c'est un effondrement de la carrière d'un homme qui était présenté jusqu'à présent comme un homme aurait pu constituer une solution de rechange.
Ce sont des élections qui n'ont pas été jugées crédible ni transparente par différentes missions dépêchées à Bujumbura. Est-ce que le troisième mandat ira jusqu'au bout, selon vous ?
Les puissances occidentales principalement qui ont décrié et qui dénoncent aujourd'hui ce troisième mandat, qui ont mis en garde contre ce troisième mandat et qui ont déjà même par avance affirmé qu'elles ne reconnaîtront pas le troisième mandat des institutions qui sortiront de ces élections. Je ne pense pas que ces puissances vont changer d'avis. Il me semble qu'il y a une légitimité qui va aller jusqu'au bout. 26 août, je crois que la communauté internationale, comme tous les Burundais, attendent la fin du mandat légal du chef de l'État actuel, Pierre Nkurunziza. Et au-delà, il y aura probablement des puissances qui vont dire « Vous étiez prévenus, nous vous avions mis en garde, nous avions exprimé notre hostilité à l'égard du troisième mandat. On ne vous reconnaît pas. » Beaucoup de forces burundaises aussi, ceux qui ont depuis plusieurs mois exprimé leur hostilité au troisième mandat, peuvent considérer que le Burundi n'a plus de chef d'État, peuvent considérer que c'est le vide, cette fois-ci vraiment institutionnel, et ces forces politiques peuvent travailler sur une stratégie de désignation d'un chef d'État intérimaire qui va assumer la transition et qui va donner surtout une chance pour que ce pays ne continue pas la descente aux enfers.
Athanase Karanyenga, un expert en gouvernance politique, il a été joint à Dijon en France. Et puis, le rapport annuel du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains souligne que cette activité crée de grosses fortunes à travers le monde en exploitant, surtout au plan sexuel, des millions de personnes dans le monde entier. Pour une réaction à ce document, Timothée Donormaya a joint à New York Taïna Bien-Aimée, directrice exécutive de la Coalition contre la traite des femmes.
Pour nous, à la Coalition, ce qui nous perturbe, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, surtout en Europe et en Australie, comme par exemple l'Allemagne, l'Autriche, la Hollande, où la prostitution est réglementée. Et donc, nous savons qu'il y a un lien direct entre la réglementation de la prostitution, du commerce du sexe, et la traite des femmes et des filles. Et donc, nous aimerions voir un rapport qui adresse cette situation, qui regarde les éléments de trafic et d'exploitation qui ne sont pas vraiment développés dans ce rapport.
Vous avez parlé des pays développés où l'on a légalisé la prostitution. Quelle est la situation dans les autres pays?
Il y a la criminalisation totale, comme aux États-Unis et ailleurs. On ne peut pas ni vendre ni acheter le sexe. Et il y a la légalisation où tout va. Donc les proxénètes, les acheteurs de sexe, tout est légal, quoi. L'industrie du sexe est complètement légale. Et c'est là qu'on voit vraiment une augmentation sérieuse et alarmante de la traite des femmes. Et quand je parle de la traite des femmes, je pense surtout en Allemagne, où la majorité des femmes dans ces maisons closes sont des pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est, de l'Afrique, de l'Asie. Et puis après, il y a ce troisième modèle, si vous voulez, qui est le modèle nordique, qu'on appelle nordique parce qu'il a commencé en Suède, où les seules personnes qui sont pénalisées sont les acheteurs de sexe, reconnaissant que ceux qui sont contraints à vendre leur corps le font d'une position de vulnérabilité, de pauvreté, d'inégalité de genre. Et donc, c'est un modèle qui vraiment regarde la traite de façon intelligente, compréhensive, et d'une façon où on voit le bout du tunnel, si vous voulez. Hein, parce que tant qu'il y a légalisation de la prostitution, la traite va augmenter.
Taïna Bien-Aimée, directrice exécutive de la Coalition contre la traite des femmes, une ONG basée à New York. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.